Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes Crème de la Crème, vous le savez maintenant, c'est une conversation, habituellement en tout cas, où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. J'ai déjà eu des entrepreneurs, un financier, une pâtissière, bref, je brasse assez large pour essayer de partager avec vous les clés de leur succès et surtout d'avoir des conseils concrets que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Si vous avez aimé les premiers épisodes d'ailleurs et que le concept de Crème de la Crème vous plaît, n'hésitez pas surtout à diffuser le podcast autour de vous. Vous pouvez le faire sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook bien sûr, ou simplement pensez à vous abonner pour être sûr de ne pas louper un épisode, surtout qu'en général je les diffuse pas toujours avec des dates très précises, même si je vais essayer peut-être de choisir un jour auquel je vais me tenir à l'avenir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des suggestions d'invités, des idées de thématiques abordées ou juste des questions sur l'entrepreneuriat, surtout n'hésitez pas à me le dire, notamment dans le commentaire du blog Crème de la Crème, qui est à l'adresse podcast-crème-de-la-crème.com. Le lien est dans le descriptif du podcast en tout cas, ou sur mes réseaux personnels que vous pourrez trouver @pelignaeu sur Twitter et sur Instagram. C'est hyper utile pour moi. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode un peu spécial, qui est un peu plus court, vous allez voir, environ 30 minutes, peut-être 35 minutes, et sans entrer dans le détail de la vie de mon invité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas vraiment parler de son succès. On va plutôt parler du succès dans un domaine qui m'intéresse particulièrement, l'alimentation. Parce que pour moi, le succès, ce n'est pas juste un succès professionnel, ça peut être aussi un succès amoureux, ça peut être social, et justement, ça peut être aussi dans le domaine de la santé. Pour moi, être successful professionnellement, si je me sens pas bien dans mon corps, sincèrement, ou même dans ma tête, ça n'a pas trop de sens. C'est peut-être un truc culturel d'ailleurs que mes parents m'ont inculqué et ça, je les en remercie. Mais je me suis dit que ça pouvait toucher certains d'entre vous et du coup, j'ai eu envie de faire un podcast à ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander du feedback sur ce type d'épisode qui est un petit peu particulier. On va dire que la vocation, c'est moins d'être inspirant comme ça peut être le cas sur des épisodes où je vais avoir plus des mentors qui vont parler. Mais on va plus avoir une vocation d'être formateur ou informatif sur des sujets précis. Donc, soyez quand même indulgents avec moi parce que je suis pas médecin, que j'ai appris sur le tas, que je suis complètement autodidacte en la matière et que mes questions sont donc pas forcément toujours ultra pertinentes. En plus, on était chez Jean-Michel et du coup, vous allez voir que parfois, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y avait quelques personnes qui se baladaient dans les couloirs. Mais bref, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos feedbacks là-dessus et que vous me disiez si vous trouvez que ce type de format est sympa, vous plaît, et éventuellement d'ailleurs quels sont les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde en plus de la nutrition. Donc bref, je reviens à mes moutons et à mon invité. Vous l'aurez compris, j'avais très envie de faire un podcast avec un expert en nutrition. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé mon candidat parfait. Qui sait ? J'ai nommé Jean-Michel Cohen. Alors, vous connaissez sans doute Jean-Michel le nom, parce que c'est une vraie célébrité dans le monde de la nutrition en France. C'est un médecin formé par le célèbre professeur Marion Applebaum, qui a été son mentor pendant des années. Il a écrit une thèse médicale sur l'obésité. Donc, Jean-Michel est vraiment connu pour être le médecin qui a voulu démocratiser et même vulgariser la nutrition auprès du grand public. D'ailleurs, il a écrit des dizaines de bouquins, pour la plupart des best-sellers en plus, et il a participé à des émissions, et c'est comme ça qu'on le connaît en général, à très large audience, un petit peu polémique, comme « C'est mon choix » ou « Je veux maigrir sur M6 ». Donc, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas toujours été très respecté dans la communauté médicale. Mais malgré ses détracteurs, Jean-Michel est quand même quelqu'un qui est unanimement respecté pour ses compétences et son cabinet soigne d'ailleurs chaque année des centaines et des centaines de patients qui sont très satisfaits de ses services. Alors, si vous voulez avoir des réponses concrètes d'un médecin nutritionniste, je pense que cet épisode est vraiment fait pour vous. J'ai posé tout simplement les questions que j'avais envie de poser pour moi et j'espère en fait que ça vous conviendra. Typiquement, les questions qu'on a abordées dans cet épisode, c'est qu'est-ce qu'une alimentation saine pour quelqu'un qui ne fait ni particulièrement de régime, qui n'essaie pas particulièrement de perdre du poids, mais juste qui veut manger sainement, qui veut stabiliser son poids, par exemple. Quels sont les compléments alimentaires qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il y a comme carence, que manger quand on fait du sport, qu'est-ce que le régime cétogène ou la mode du fasting aussi, on entend beaucoup parler. Les végétariens ou les véganes peuvent-ils respecter leur régime sans avoir de carence? Bref, on a brassé assez large, il y a encore plein d'autres sujets qu'on a abordés. Et du coup, je suis à peu près sûre que tout le monde trouvera des points d'intérêt dans cet épisode. Jean-Michel est en plus, vous allez voir, un médecin qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Mais c'est ça qui m'intéressait, parce que je voulais aussi des réponses un peu no bullshit sur ce qu'il allait me dire. Et je pense qu'on est arrivé au but. Donc bref, je vous en dis pas plus. Et je vous laisse découvrir les secrets de la nutrition selon Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. On est là aujourd'hui pour parler d'alimentation, bien sûr, avec vous. J'ai fait une petite introduction où j'ai parlé de votre parcours, mais j'aimerais quand même en connaître un petit peu plus sur votre parcours et comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir médecin nutritionniste. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'alimentation quand vous vous êtes lancé en fait et que vous avez commencé vos études de médecine?
En fait, c'est une assez longue histoire. Elle commence bien avant mes études de médecine. Et c'est assez curieux parce qu'en France, on m'a jamais posé vraiment la question, alors qu'aux États-Unis, on me la pose quasiment régulièrement. L'histoire venait d'une histoire familiale où ma maman était obèse et elle a fait le tour des médecins nutritionnistes parisiens. C'est-à-dire à la belle époque où on prescrivait les hormones thyroïdiennes, les coupes fins, enfin, toutes sortes de produits qui sont interdits aujourd'hui. Et, j'accompagnais souvent mon père qui nous véhiculait et nous on attendait dans la voiture et je voyais à la fois la douleur de ma mère et l'escroquerie dont elle était victime régulièrement parce que même petit je me rendais compte qu'il y avait un problème.
Et en voyant des médecins, c'était des médecins qui...
Oui, c'était des médecins. Le dernier en date, mon père faisait 100 km jusqu'à Évreux à chaque fois pour l'amener à un médecin qui était plus subtil que les autres, qui avait mis ma mère sous emprise psychologique mais qui en même temps avait un tel aura auprès d'elle que finalement, elle avait réussi à maigrir, finalement, en mangeant pas du tout. Et donc, j'ai été interpellé par ce sujet. Puis, comme ma mère aimait manger et mangeait beaucoup, elle me faisait manger beaucoup. Donc, je suis devenu à mon tour gros et j'étais à un poids relativement confortable, à peu près celui d'aujourd'hui, pendant assez longtemps. Et à la fin de ma première histoire d'amour, au cours de laquelle ma fiancée m'a quitté, enfin fiancée entre guillemets, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire vouloir retrouver un pouvoir de séduction. Mmh. Et donc j'ai fait un régime tout seul, plutôt pas mal d'ailleurs à l'époque, et j'ai maigri énormément. Voilà.
Et si, sans indiscrétion, vous aviez quel âge à l'époque?
Oh, j'avais 18 ans.
D'accord, encore
et
très
donc,
jeune.
Mais j'ai perdu quasiment 20 kilos en l'espace de 3 mois.
Ah oui, mais vous avez complètement arrêté de manger, quoi.
Je me défonçais au tennis. Donc
d'accord, sport.
J'ai été un très bon joueur de tennis.
D'accord.
Je me défonçais au tennis et je mangeais, mais vraiment très peu, un bout de viande, quelques haricots verts, une pomme. C'était pas si déséquilibré ça, avec des tartines le matin. Et ensuite, quand je suis rentré en faculté de médecine, j'ai eu la chance d'avoir en deuxième année de médecine un professeur de physiologie qui s'appelait Marian Apfelbaum, qui était un homme à très forte personnalité, qui avait un parcours personnel assez singulier et qui me marquait dont j'admirais les cours. Enfin, je m'y précipitais et assez rapidement, j'ai su que je devrais probablement faire nutrition. Et quand l'heure du choix est venue, j'ai été à la faculté, tous mes copains ont choisi leur spécialité, qui la chirurgie, qui la cardiologie, qui la pneumologie. Et moi, j'ai levé la main et j'ai dit nutrition. Et tout le monde m'a regardé. Enfin, l'amphithéâtre s'est retourné vers moi.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était hyper rare.
Bah, ça n'existait pas, surtout comme métier. Ça veut dire, j'allais non pas dans un service de nutrition, mais dans un service d'exploration fonctionnelle nutritionnelle.
Formidable.
Donc, ils m'ont regardé. Et pour la petite histoire, j'étais un étudiant assez brillant en termes de résultats, mais assez peu en termes de travail. J'avais des facilités.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous travailliez pas beaucoup?
Ça arrive. C'est-à-dire, j'aimais pas travailler beaucoup, mais par contre...
Pourtant, on dit que les études de médecine sont parmi les plus dures, qu'il faut apprendre un nombre de choses incalculables.
J'avais une très très grande capacité à mémoriser,
d'accord,
à apprendre, à comprendre. Et donc, sans beaucoup de travail, j'avais d'excellents résultats. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que je prenne chirurgie.
Ouais.
C'était, bon, à l'époque, c'était la spécialité reine. Et en fait, on m'entend dire ça. Donc, quand j'arrive au bistrot où je jouais au poker et au tarot avec mes copains, je suis arrivé, on avait l'impression que c'était un enterrement, quoi. C'était un deuil. Donc,
le majeur de promo fait nutrition.
Voilà. Donc, personne comprenait. Et puis, pendant que je jouais aux cartes, j'ai eu une attaque de panique et je me suis dit, mais ils ont raison, quoi. Je suis complètement dingue. Et j'ai été vite à la faculté, j'avais une moto, et j'ai été voir la secrétaire en lui disant, écoutez, je me suis complètement planté, et je vais changer de spécialité. Et la secrétaire m'a dit, ah, mon vieux, c'est fini, les papiers sont partis, c'est grillé.
Et donc, vous avez été contraint, finalement, de garder votre premier choix.
Oui, ça a duré 48 heures, et au bout de 48 heures, mon côté forte tête l'a emporté. Je me suis dit, au fond, si j'ai choisi ça, j'ai choisi ça. Et je suis rentré dans le service de Marian Apfelbaum, et j'ai vécu un pur bonheur pendant plusieurs années, à apprendre, à comprendre, à expérimenter, à voir. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un prof, donc Marian Apfelbaum, qui à la fois était un très grand médecin, mais en même temps probablement le meilleur nutritionniste de la période, même au niveau mondial, et qui a commencé à médiatiser notre métier. Mmh. C'est la première émission de télévision où on fait maigrir un obèse de façon brutale, c'est Marianne Appelbaum. Mmh. Et moi, je suis en extase devant ce mec qui non seulement est brillant intellectuellement, mais qui a beaucoup d'humour et qui en plus est extrêmement médiatique. Et après, par la suite, on m'a embauché comme directeur médical dans un laboratoire, mais en fait, on m'a embauché pour ma carte de visite. Mmh. Ça veut dire, je connaissais tous les nutritionnistes, ouais, et j'avais une réputation dans mon métier. Je me suis ennuyé à mourir pendant 2-3 ans. Et au bout de 2-3 ans, j'ai des médecins d'un cabinet médical qui m'ont dit, au fond, on te connaît, t'habites pas loin, pourquoi t'ouvrirais pas une consultation de nutrition? Et je me suis dit, bah, c'est très bien, je venais d'avoir un enfant, ça sera un complément de salaire.
Et à l'époque, ça se faisait ou c'était encore très
Alors,
peu fréquent?
Ça se faisait, mais il y avait surtout des voyous. C'était, et donc, personne ne faisait ce type de nutrition assez noble. Et quand j'ai ouvert cette consultation de nutrition, en fait, à la fin du premier mois, j'étais en débordement total. J'ai donc quitté le laboratoire médical où j'étais, où je m'ennuyais finalement, parce que bon, j'avais juste à donner mon nom et pour qu'ils vendent leurs produits, donc ça n'avait aucun intérêt. Et ma consultation a explosé, ça veut dire que très rapidement un bouche à oreille a fonctionné. Donc j'avais à la fois tous les déçus des voyous parisiens et en même temps tous les gens qui commençaient à penser que oui, vraiment, on ne maigrissait pas simplement en mangeant des médicaments, mais qu'on maigrissait en gérant la nourriture d'une façon plus subtile que la simple privation. Puis par la suite, j'ai travaillé dans mon coin, très heureux d'ailleurs, en ayant une vie de famille très épanouie et en écrivant un premier livre à la... Ça, c'est assez rigolo parce que j'ai soigné une éditrice qui s'appelait Franca Belfond. Et à l'époque, Franca Belfond, c'était Les oiseaux se cachent pour mourir. Donc, c'était une grande maison d'édition. Elle me demande d'écrire un livre. Mais moi, je connais pas les médias. Donc, j'écris mon premier livre. Ça a été un bide retentissant. Je
générique sur l'alimentation. C'était quoi?
C'était un des premiers livres d'amaigrissement. Ça s'appelait Le régime P2S, mais je savais pas le vendre. C'est-à-dire, j'étais sorti de l'hôpital.
D'accord.
Donc, je savais pas faire ce genre de truc.
Bien sûr.
Et donc, je me souviens d'une télévision pathétique où je suis interviewé par Christophe de Chavannes. Normalement, aujourd'hui, j'aurais la même audience. Je passerai dans la même émission. Il y avait 50 000 livres qui partaient le lendemain. Donc, mais à l'époque, je suis emprunté. Enfin, je l'ai gardé comme souvenir.
Une gêne au début.
C'est pathétique. Pathétique. C'est le pauvre de Chavannes. Il essaye de sauver la séquence, mais il n'y arrive pas. Je suis nul.
Pourtant, il est bon, mais.
Ouais, je suis nul. C'est catastrophique. Donc, je poursuis mon petit bonhomme de carrière. Le début de ma médiatisation, il intervient. Surtout dans la presse écrite, quand un jour, une journaliste que j'invite à un congrès, qui est devenue après une de mes meilleures amies, vient à ce congrès par accident, parce qu'en fait, on a tout annulé quand je me rends compte que l'organisateur du congrès est un faisant.
D'accord.
Et elle adore discuter avec moi, et elle revient un jour en me disant, écoutez, j'ai adoré passer ce week-end de congrès pas très réussi avec vous. Moi, j'aimerais bien que vous m'écriviez un article pour Femme Actuelle.
Ouais.
Et moi, pédant et prétentieux, je réponds, non, écoutez... ni Femme Actuelle, ni Modes et Travaux, ni Le Chasseur Français, madame, j'écris dans les journaux médicaux. Donc, elle est morte de rire.
Mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a vraiment souvent, les médecins, en fait, ne veulent publier que dans des journaux médicaux, mais finalement, qui ne sont lus que par des médecins.
Ouais,
et c'est quand
ça,
même assez triste de se dire que le commun des mortels ne veut pas avoir accès à leur science, quoi.
Mais ce que je sais pas, c'est qu'elle fait partie des trois grandes stars du journalisme parisien de l'époque. Qui font et défont les réputations des médecins.
D'accord.
Mais moi, je le sais pas. Donc, je l'envoie promener, mais vraiment, comme il faut, mais avec un mépris.
Oh là
et
là.
Elle, au lieu de se vexer, elle trouve ça tellement drôle et tellement atypique qu'elle insiste. Et elle me dit, mais vous connaissez pas, faites-le quand même, ça rend service. Bon, finalement, comme je deviens copain avec elle, pas encore ami, mais copain avec elle, je dis, bon, écoutez, d'un air suffisant, je vais vous le faire. Et donc, je le fais. Et incroyable, quoi. C'est saisissant.
Et ça, c'était un article, c'est ça, dans Femme Actuelle?
C'était deux pages dans Femme Actuelle, mais Femme Actuelle d'avant. Ça veut dire quand ça tirait
énorme,
du million
d'exemplaires.
Tout le monde lisait ça. Enfin, toutes les femmes lisaient ça. Donc, effectivement, alors là, j'étais complètement lancé. Puis par la suite, je continuais. Alors, je continuais à faire des papiers dans la presse écrite, puisqu'une fois qu'on avait fait un papier de ce style, tous les journalistes se précipitaient vers vous. Et un jour, une de mes copines, d'aujourd'hui, me demande d'écrire un article complètement débile sur les aliments aphrodisiaques. Mais c'est ma copine.
Les aliments aphrodisiaques, d'accord.
Ouais, c'est ma copine. Donc, elle me dit, c'est pour se marrer, c'est pour se VSD. Bon, j'invente n'importe quoi, ça n'avait aucun sens.
Oui.
C'est vraiment pour lui faire plaisir, je dis la vérité. Et donc, j'écris le papier. Voilà, aucune espèce d'importance, ce papier. Mais 2 ans plus tard, donc on est en 2000, cette copine devient rédactrice en chef d'une nouvelle émission qui se monte à la télévision française et qui s'appelle « C'est mon choix ».
Ah oui.
Et elle me dit « Je suis devenue rédactrice en chef de « C'est mon choix ». On fait la première émission. Est-ce que ça t'ennuierait pas d'être dans le public pour nous faire une intervention ?» Bah, c'est ma copine.
Ouais.
J'accepte. Donc, je fais l'intervention. Et là, le producteur de l'émission me remarque. Et il me fait revenir une autre fois sur le plateau de l'émission dans le public. Puis, il me fait revenir une troisième fois, mais cette fois-ci sur un des fauteuils.
D'accord.
Donc, je suis pas l'invité principal, mais je suis sur un des fauteuils. Puis, vraiment, je commence à prendre goût à l'exercice. Je trouve ça marrant, sympa. Et finalement, jusqu'à devenir quasiment par période co-présentateur avec Evelyne Thomas de l'émission.
Formidable. Bah, écoutez, c'est une très belle introduction aux questions que je vais vous poser. Pas du tout, pas du tout. Ben non, comme ça, ça permet de bien contextualiser. Mais justement, alors vous avez écrit énormément de livres, ça je l'ai vu. J'ai vu que vous avez une chaîne YouTube aussi. Donc vous parlez vraiment de nutrition dans tous les détails. Et notamment, j'ai été assez intéressée par le fait que vous aimez bien aussi parler des régimes qui sont à la mode et il y en a tellement qu'en fait on ne sait plus à quel sein se vouer. Et en fait, ma première question, c'est assez simple, c'est pour une personne un peu normalement constituée qui cherche peut-être à maigrir un petit peu, qui cherche à perdre 1, 2, peut-être 3 kilos, mais qui est quelqu'un de normal, homme ou femme, est-ce que vous auriez des grands principes de base alimentaire? Parce que moi, par exemple, sincèrement, je ne sais plus à quel sein me vouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit qu'il faut pas manger de sucre, on me dit qu'il faut pas manger de gras. Au contraire, on me dit que finalement le gras c'est très bien pour le cerveau, je ne sais quoi. Le sucre, bon, ça globalement, je crois qu'on dit que c'est pas très bien, mais on ne sait pas tellement ce qu'il faut faire. Donc, un peu des grands principes de base.
En réalité, on sait ce qu'il faut faire. On a des proportions qui sont assez bien établies. Mm-hmm. Je vais vous les donner, mais elles sont pas lisibles pour le commun des mortels. On sait qu'il faut prendre entre 0,8 g et 1,2 g de protéines par kilo et par jour.
D'accord.
On sait qu'il faut à peu près, alors c'est débattu à l'heure actuelle, entre 40 et 50% d'hydrates de carbone. On est plutôt vers les 40 aujourd'hui que
d'accord.
vers les 50.
Donc qui on sont les fameux sucres lents
voilà.
notamment dont on parle.
On sait qu'il faut avoir un minimum 30 à 35% de lipides et 15 à 20% de protéines. Voilà.
D'accord.
Ça, on le sait. Et après, on sait qu'il faut varier l'alimentation. C'est pour ça que j'avais écrit un livre en disant que c'était le régime universel. Parce que finalement, quand on fait le détail, à part les recettes de cuisine, on sait à peu près ce qu'il faut manger.
Ouais, d'accord.
Sauf que dans l'alimentation des Français, il y a un phénomène de transmission. Ça veut dire que normalement, on ne sait manger que parce qu'on a appris à manger au travers de l'éducation et de la vie familiale qu'on a eue. Et que cette transmission alimentaire, elle a été altérée à la fois par l'explosion de l'abondance alimentaire et en même temps par une disponibilité des aliments qui est complètement différente.
Ouais.
C'est-à-dire, autrefois, bah, finalement, les gens avaient peu le choix.
Mm-hmm.
Ils mangeaient soit en restauration collective, soit chez eux.
Ouais.
Donc, il y avait la transmission du repas
bien
familial.
Bien sûr, puis là, ils travaillent. Donc, parfois, ils mangent devant leur ordinateur. Enfin, bon,
voilà.
y a pas mal de phénomènes.
C'était ça, quoi. C'était hors d'œuvre, plat, dessert. Mm-hmm. Et selon les époques et selon la dépense d'énergie, plus ou moins. Et aujourd'hui, bah, je vais descendre en bas de mon travail. Je vais acheter une salade Sodebo, un Big Mac, un panini. Je vais aller m'acheter 2 tranches de jambon avec un sachet de carottes râpées. Donc, il y a une déformation du modèle alimentaire. Et comme cette déformation du modèle alimentaire, elle est présente, ben, les gens, finalement, ils savent plus comment structurer leur repas. Mais un vrai beau repas, normalement, c'est...
C'est entrée, plat, dessert ? Non, quand même pas.
Si. Normalement, c'est des végétaux. C'est-à-dire, normalement, un vrai repas, c'est une entrée à base de crudités. Un plat principal qui comporte une source de protéines, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, avec une partie en féculents ou en légumineuses et une partie
d'accord.
en légumes, un produit laitier et un fruit.
D'accord.
Après, ça se décline de 1000 façons.
Bien
ça veut dire que je pourrais tout mélanger, brasser tout dans un shaker et l'avaler, ça serait la même chose.
Pas très
et
bon,
je peux également faire un poulet à l'ananas dans lequel j'aurai le fruit et le poulet. Et je pourrais également manger de la rosette de Lyon si, par exemple, je décide de cuisiner sans graisse. Donc, tout est possible en termes d'alimentation. Donc, nous, on le sait. Mais par contre, la peur et l'angoisse que les médias mettent sur l'alimentation troublent encore plus les gens.
C'est vrai. Et une autre question que j'aurais, c'est, alors vous avez vu, j'imagine, des milliers de personnes ou via vos émissions, vous avez pu côtoyer énormément de personnes qui soit cherchent à perdre du poids, soit à maintenir leur poids, soit voilà, à se stabiliser. Quelles sont selon vous les erreurs les plus fréquentes qu'on fait au quotidien dans quelqu'un de normal, en fait, vous rendez compte qu'en fait tout le monde au quotidien fait quelque chose, je sais pas, boire des sodas sucrés, enfin, quelles sont un peu pour vous les quick wins ou vraiment assez simplement pour améliorer sa santé?
Les portions et l'assaisonnement. La plupart du temps, c'est quand même... Je ne parle pas du grignotage parce que c'est évident, mais l'assaisonnement et les portions. Ça veut dire que les gens ne savent pas assaisonner et cuire.
Mettre trop d'huile partout.
Voilà. Et les portions, c'est-à-dire que les gens ne savent pas réguler leurs portions.
D'accord.
Et la troisième chose, c'est évidemment le grignotage avec des produits qui ont largement changé par rapport à avant. Ça veut dire que le grignotage aujourd'hui, il est vraiment sympa et facile.
Peu trop sympa, quoi.
Bah, quand je passe, je vais me faire maquiller et que je vais dans les loges, à peine j'arrive sur ma droite, je la visualise là en train de vous parler, j'ai la machine de distributeur et j'ai regardé la dernière fois, j'ai montré la composition du distributeur, sachet de chips, pourquoi ? Parce que c'est pratique et ça se conserve, barre de chocolat, soda, biscuits secs, etc. C'est pas des produits particulièrement recommandés. Ouais. Mais qui aujourd'hui sait et connaît la composition d'un biscuit? Combien ça vaut en calories un biscuit? Eh bien, un biscuit en valeur calorique, c'est à peu près l'équivalent pour la plupart des biscuits à la même teneur calorique que le foie gras. Donc, mais les gens ne le savent pas. Donc, 100 grammes de biscuits, c'est entre...
Sans filet du foie gras
pour
tous les jours.
Moins riches, 380 calories pour 100 grammes. Pour les plus riches, 600 calories, comme les Oreos. Donc,
ouais, c'est monstrueux.
Qui va le savoir, je veux dire
On pense qu'en plus, ça coupe pas tellement la faim.
Non, c'est un produit sec en plus, donc ça coupe pas la faim. Donc les gens, ils savent pas. C'est la même chose pour les barres de chocolat. Et c'est la même chose pour les sachets de chips. Alors en réalité, les gens se pourrissent la vie à manger des carottes râpées le midi, mais ils ont bonne conscience à aller prendre un Twix, un Snickers ou un Mars à 4 heures.
Ouais. Et alors justement, donc là, vous me parliez de des choses qu'il faut pas manger. Donc vous m'avez cité les chips, vous m'avez cité les Oreos ou sans citer de marque, des cookies. Donc là, on a parlé de gras avec les chips, on a parlé de sucre. Le gras a été énormément, je trouve, diabolisé pendant des années, où d'ailleurs, il y a eu toute la période des Taïfines 0%. Tout était 0%. Bien quasiment sûr. Le beurre était 0%, ce qui est un peu dommage en France, qu'on a du très bon beurre. Et donc, je sais que maintenant, on en revient un petit peu. Est-ce que vous pouvez me parler de cette tendance? Et est-ce qu'il faut manger ou pas des produits allégés? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la première question, on a stigmatisé le gras parce que pendant longtemps, on a pensé deux choses. Un gramme de graisse, c'est 9 calories. Et en plus, les graisses, on avait la vision des graisses saturées. Et donc, on se disait, ce qui n'a pas changé d'ailleurs, malgré l'exploitation marketing qu'en font les huiliers à l'heure actuelle dans les médias. Et on sait que les graisses saturées sont pas très bonnes pour la santé parce qu'elles ont plus tendance à boucher les artères. Donc finalement, c'était assez avantageux dans un régime de pas mettre de graisse. La réduction était pas importante, etc. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que le sucre était un des précurseurs les plus violents de l'obésité et du diabète, qui devient maintenant un des maux les plus importants de la planète. Et surtout que le sucre était un précurseur du cancer parce qu'il agissait sur la
stimulation. Du cancer aussi.
Oui, oui. Il provoquait une production, la sécrétion d'un certain nombre de composés chimiques qui accélèrent la croissance des cellules tumorales. Donc, on s'est dit à ce moment-là, ça nous permettra de réduire le diabète et donc l'obésité également. Et en même temps, on limitera les capacités à développer un cancer. Donc, on a mis des règles beaucoup plus strictes qu'auparavant sur le sucre. Et maintenant, on est à 50 grammes maximum pour les femmes et 60 grammes pour les hommes. Mais je parle des sucres rapides.
D'accord.
Pour les sucres lents, on accepte d'en avoir beaucoup plus, mais on fait une sélection et on préfère aujourd'hui les légumineuses. Donc ça, c'est la première chose. Les produits allégés, on s'est rendu compte d'autre chose. D'abord, les produits allégés, aujourd'hui, très récemment, un journal à Sensation a fait la critique des additifs qui sont mis en 10 ans dans les produits allégés, en disant que ça donnait le cancer. Ils n'ont absolument aucune preuve que ça donne le cancer, ça j'en suis certain. Mais par contre, c'est vrai que pour faire un produit allégé, on est obligé, par exemple, pour un produit laitier, de le coaguler, de lui donner une forme. Donc, on va mettre des gommes ou de la gélatine ou bien de l'amidon modifié. Donc,
Et en même temps,
quand vous mangez un produit allégé, vous n'avez pas la même sensation, vous n'avez pas le même ressenti intellectuel et cérébral
que quand
vous prenez un produit entier.
On a l'impression psychologiquement de faire les choses bien et de faire un effort d'une certaine manière. Donc, du coup, après, on se dit, on va se lâcher derrière.
Et ajoutons à ça que depuis quelque temps, on avait également une notion qui est très récemment apparue et qui commençait à pointer il y a 2-3 ans, c'était le fait qu'une trop forte consommation d'édulcorants entraînerait peut-être une augmentation de la consommation non pas des sucres mais des graisses. Autrement dit, j'achète des produits sans sucre, édulcorés avec des édulcorants, ce qu'on appelle
stevia,
les sucrètes, les candérelles, etc. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du sucre dont je vais avoir envie, mais je vais augmenter ma consommation de produits gras. Donc,
c'est-à-dire que psychologiquement, pour que je comprenne, ça nous donne envie de consommer plus de gras.
C'est-à-dire qu'on arrive à tromper le cerveau sur son désir de sucre,
ouais.
Mais on n'arrive pas à tromper la satiété que le désir de sucre signifiait.
Mm-hmm.
Et donc, on va le compenser en mangeant des produits gras.
Donc,
on faisait aucun bénéf. Donc finalement, les produits light n'ont aucun intérêt aujourd'hui.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent presque l'impression inverse qu'on a envie de manger plus, d'après
exact.
Ce que je comprends. Très bien. Donc, du coup, j'imagine qu'il faut éviter de les consommer.
Oui,
là, je suis en train
voilà,
de boire un Coca Zéro avec vous, c'est pas formidable.
Non, mais quand vous en prenez un, ça va, mais il ne s'agit pas d'en prendre 3-4 dans la journée. Alors, ça signifie qu'on réapprend aux gens maintenant à prendre un thé sans sucre, qu'on leur demande de limiter leurs boissons, même light, et qu'on leur demande de faire attention quand ils achètent des produits à pas déborder sur la contenu.
Vous recommandiez quoi? Peut-être une boisson light par jour, c'est suffisant, quoi.
Exactement. Mais donc, on est en train de réapprendre aux gens à faire des vrais régimes.
Bien sûr, bien sûr. Et donc on a parlé un petit peu du gras, vous m'avez aussi beaucoup parlé de sucre, donc pas uniquement de faux sucre mais de vrai sucre. Donc il y a énormément de régimes, comme vous l'avez commencé à le dire, qui parlent du fait qu'il faut limiter le sucre. Il y en a certains sincèrement qui sont extrêmes, notamment donc je pense au régime cétogène dont vous avez parlé dans nombreuses vidéos que vous avez faites, et aussi d'autres régimes comme par exemple alors en France, il y a un autre médecin qui s'appelle, je crois que le docteur Fricker, qui en parle. Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'il faut vraiment limiter le sucre. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est viable de limiter complètement le sucre? Enfin, moi, sincèrement, j'ai essayé, je vais vous le dire, de manger très peu de sucre ou voire pas de sucre. Honnêtement, au bout d'un moment, on devient fou.
Mais c'est pour ça que j'ai écrit sans sucre ou presque.
Ouais, ouais.
J'ai pas écrit régime sans sucre. Alors, il y a des modes dans les régimes. Alors, il y a ce qu'on appelle les nouvelles connaissances, qui ne sont pas une mode. Et après, il y a les modes, c'est la déclinaison des nouvelles connaissances sous forme de régime marketé.
Mmh.
En réalité, tous les régimes passent par un item fondamental, c'est la réduction de la valeur calorique de l'alimentation.
Oui.
S'il n'y a pas ça, vous pouvez toujours vous accrocher, il ne se passera rien. Vous pouvez
D'accord.
toujours manger sans sucre, sans graisse. Si vous prenez 3000 calories de n'importe quoi, vous grossirez.
Donc malheureusement, il n'y a pas de secret.
Donc ça ne changera rien. Mmh. Après, ce sont des brèches marketing. J'avais décidé d'écrire ce bouquin déjà depuis juillet de l'année dernière parce que j'avais une bibliographie médicale là-dessus qui commençait à être soutenue.
Mmh.
Et donc, mais j'ai eu la correction d'écrire sans sucre ou presque.
Mmh.
Pourquoi? Parce que la suppression totale des sucres serait une erreur alimentaire.
Mmh.
Et même quand j'en parle avec les pouvoirs publics à propos des initiatives concernant l'alimentation, je leur explique que la stigmatisation de l'alimentation est une très mauvaise chose. Donc, on ne va pas stigmatiser les sucres. On va dire qu'on a le droit à une petite proportion de sucre dans la journée, simplement qu'il faut la limiter. Aujourd'hui, on est à 180 grammes de consommation de sucre rapide par jour chez les Français, alors qu'on devrait être à 50 ou 60 grammes. Donc, il va falloir apprendre à réduire ça.
Et concrètement, en fait, donc, si je prends par exemple le régime cétogène, juste pour l'expliquer aux auditeurs, donc c'est, d'après ce que je comprends, le fait qu'il faut manger aucun sucre rapide déjà.
Ça s'appelle le régime Atkins.
C'est la même chose. Voilà.
C'est exactement la même chose.
Strictement, et je crois aucun féculent aussi. Il me semble peut-être des légumineuses à la rigueur.
C'est simplement ce que j'explique régulièrement, c'est que tous les régimes, enfin, il n'y a jamais rien de neuf dans les régimes à part les recettes de cuisine qu'on peut donner. Mais c'est simplement le packaging qui est différent, le paquet cadeau est différent. Donc là, il ne peut pas appeler le régime Atkins le régime Atkins. Donc il va l'appeler le régime cétogène. D'autres l'ont appelé aux États-Unis le régime keto. Et après il y avait la chrononutrition et puis après il y a eu le régime du camp et puis machin. Mais le régime du camp comme le régime cétogène, c'est exactement la même chose, c'est une suppression radicale des produits sucrés, ce qui n'est pas le cas dans le livre que je viens d'écrire où j'ai conservé les légumineuses et les féculents, et on sait que on obtient des résultats plus rapides dans les régimes. Le problème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que notre corps n'est pas équipé à le supprimer définitivement, donc il faut le faire sans sucre ou presque, faut pas le faire complètement sans
bien
sucre.
Bien sûr. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous supprimez toute une partie des sucres raffinés. Enfin, j'invite évidemment les auditeurs à consulter
ça,
votre livre pour avoir ou à prendre rendez-vous, enfin pour avoir les détails. Mais les sucres raffinés, a priori, c'est ce qu'il faut supprimer. On peut garder les légumineuses, a priori, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges,
les féculents aussi.
C'est-à-dire,
je vais garder les sucres lents. Je suis obligé de les garder pour protéger le muscle et le cerveau. Donc, je vais garder une partie des sucres lents, mais je vais abaisser cette quantité par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, je mettais 50% de la valeur calorique sous cette forme-là. Là, je vais mettre 40%. Je vais monter un peu plus les graisses et les protéines. L'avantage des graisses, c'est que ça permettra d'avoir des sauces dans les aliments. Par contre, je vais tailler en pièces les sucres rapides, y compris pendant la période du régime. Hein. pendant la période du régime, pas après, y compris au niveau des fruits. Parce que,
Le
fruit, bien sûr, c'est un peu mieux parce qu'il est accompagné de fibres. Mais qu'on le veuille ou non, un fruit, c'est un mélange de fructose, galactose et saccharose. Donc, ce sont des sucres. Et le truc le plus drôle, ça a été les cures de raisin où les gens se tapaient un kilo de raisin par jour.
Alors que c'est très sucré, le raisin, en plus.
Hein?
Alors que le raisin, c'est très sucré,
c'est
en plus.
C'est 18 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est-à-dire que quand vous tapiez un kilo et demi de raisin, vous preniez l'équivalent de 40 carrés de sucre dans la journée. Ouais. Donc, on voit vraiment pas le bénéfice, à part que ces gens-là, ils ont sûrement dû avoir
des problèmes
plus importants.
Ils sont lassés, ils n'en peuvent plus, ils
ne mangent
plus rien.
Voilà. Donc, mais bon, le terme de régime, il évoque forcément la notion du fantasme du corps, de la séduction, du pouvoir de plaire, etc. Et donc, il a gardé son merveilleux attrait. Et ce que je sais, moi, puisque maintenant, j'ai un historique très lourd sur la nutrition, c'est que, tous les 5 à 10 ans apparaît un régime miracle qui fait un tabac. Alors, le dernier en date en France, ça a été Ducamp.
Ouais.
Mais il faut en général entre 5 et 10 ans pour rétablir l'équilibre. C'est-à-dire faire en sorte que les gens reprennent des régimes modérés de façon intelligente.
Donc, ça serait, est-ce à dire que la meilleure voie et donc la voie de la santé, c'est tout simplement de ne pas vraiment faire de régime. Enfin, ou en tout cas, quand on a besoin de perdre du poids, faire un régime. Mais en fait, tout simplement garder une alimentation très équilibrée. Comme vous l'avez dit au début, c'est à peu près ce qu'il faut faire.
Les régimes variés présentent l'avantage d'être les plus équilibrés pour le corps. C'est-à-dire, pour protéger la santé des individus. Ils sont moins glamour dans la mesure où il n'y a pas une technique miracle qui est mise en œuvre.
Qui fait rêver.
Mais ça passe par une réduction globale. Donc, ça veut dire une désadaptation de la nourriture d'avant pour une réadaptation différente. Donc, c'est ça la difficulté et c'est ce qui nécessite un accompagnement.
Bien sûr.
La grosse arnaque des derniers temps, ça a été de faire croire aux gens qu'il suffisait de faire du sport pour maigrir. Donc, c'est totalement faux. Mais là, c'est engouffré dans le marché, entre guillemets. C'est engouffré les vendeurs de salles de sport et le business du fitness. En fait, on dissocie pas de l'esprit des gens l'économie du reste. Ça veut dire que, par exemple, quand on prend l'histoire du sans gluten qui a fait fureur il y a 3-4 ans, bien, il y a eu un segment de marché qui s'est ouvert pour l'industrie alimentaire qui était le sans gluten, qui était des produits à forte valeur ajoutée. Donc, c'était intéressant pour l'industrie. Ces derniers temps, le végétarisme semble progresser. Ça durera pas, mais pendant 3-4 ans, l'industriel va pouvoir vendre deux fois plus cher que ce qui vendait le même produit parce qu'il va être végétarien. Et pour le sport, ben, on ouvre des salles de sport à tire-larigot. Voilà, la société fonctionne en boucle comme ça, c'est marrant.
C'est un peu des cycles éternels. Et justement, je voulais vous poser des questions sur le sport. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait du sport, je cours 2-3 fois par semaine. Typiquement, ne pas manger de sucre et faire du sport, pour moi, c'est impossible. Or, je sais que, on a parlé du régime cétogène. En général, ils vous disent, au contraire, c'est censé améliorer les performances. Pour des sports, notamment d'endurance, est-ce que vous auriez des recommandations? Je cours pas un marathon tous les jours, mais juste avoir une alimentation équilibrée et réussir à faire du sport correctement, est-ce que vous auriez un conseil là-dessus?
En fait, le sport, c'est l'hydratation.
D'accord.
C'est l'essentiel du sport, c'est l'hydratation, parce qu'on n'améliore pas ses performances sportives avec l'alimentation, on utilise l'alimentation pour réparer ce qu'on a perdu pendant l'activité sportive. Donc, l'essentiel du sport, c'est l'hydratation. Pour les sportifs de haut niveau, c'est pas pareil.
D'accord.
Il faut surveiller le niveau d'énergie qu'ils reçoivent, d'une part, et d'autre part, les équilibrer correctement et leur faire manger des choses plutôt saines. Enfin, vous parliez tout à l'heure du sucre et de la nécessité d'en avoir dans les marathons ou dans les courses. Je vous rappelle que le régime scandinave, qui est quand même le plus efficace pour les marathons, c'est un régime où pendant 11 jours, on arrête totalement les sucres. Donc, on est dans un régime cétogène parce qu'on vide le muscle de tout le sucre. Et les deux derniers jours avant l'épreuve, on blinde en sucre lent ou en sucre rapide pour re-remplir le muscle.
D'accord.
Donc, on peut très bien faire du sport en ayant un... Parce qu'en fait, le corps lui-même sait fabriquer le sucre. Il va le fabriquer soit à partir des graisses, soit à partir des protéines quand elles sont commencées en excès. Donc le corps, de toute façon, il n'est jamais en panne de sucre. Soit il va bouffer ses réserves de graisse, et c'est ce qui provoque les amaigrissements, soit il va refabriquer du sucre tout seul, soit il utilise le sucre sous forme de sucre lent quand on lui a donné sous forme de légumineuses ou de féculents. Alors, pour les sportifs raisonnables, ce qu'on leur demande de faire, c'est surtout après le sport, d'avoir un moment de récupération.
Ouais.
Et le meilleur, parce qu'on me pose toujours la question, c'est de prendre un produit qui contient des mélanges de sucre, comme la banane, parce que c'est un mélange de sucre rapide et sucre lent. Donc, mais on n'est pas obligé de prendre une banane de 500 grammes.
Ouais,
on
peut
prendre des mini-bananes. Et de prendre un produit laitier, parce que ça va contenir du calcium, un peu de vitamine A.
D'accord.
Et donc, avec un produit laitier et une banane, en général, on récupère à peu près tout
d'accord,
ce qu'on a perdu.
C'est vraiment
si on
pour
a
la
fait
récupération.
Un effort raisonnable.
Et s'hydrater.
Pour les grands sportifs, pour un marathonien, oui, c'est important derrière d'avoir une alimentation solide, c'est-à-dire de prendre un morceau de pain, du fromage, de boire beaucoup, et éventuellement de prendre des compotes de fruits.
Et pour tout ce qui est sport plus de renforcement musculaire, est-ce que ça va être la même chose ou c'est des aliments différents?
C'est la même chose. L'ultra consommation de protéines par les bodybuilders est une aberration.
Sans aller dans des bodybuilders, c'est vrai qu'aux États-Unis, on voit en permanence des hommes, des trentenaires, quarantenaires qui passent leur vie dans la salle et qui prennent de la créatine, qui prennent énormément de protéines.
Ça sert à rien. C'est-à-dire parce qu'en fait, au-delà de 2 grammes de protéines par kilo et par jour, les protéines que vous absorbez, elles sont transformées en sucre. Donc en fait, ils sont mignons, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de sucre, mais ils en prennent sous une autre forme en utilisant des produits qui sont à la fois chers et qui vont se transformer en sucre. Mais au-delà de 2 grammes par jour, le corps ne peut plus les synthétiser, c'est-à-dire qu'il peut plus les utiliser pour en faire du muscle. Et en plus, ça devient ultra dangereux pour le rein. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement d'accidents avec des gars qui se nourrissent avec 400 grammes de protéines par jour, alors qu'en fait, ils font 80 kilos, ils devraient en prendre 160. Donc ça n'a pas de sens. Quant à la créatine, c'est une vaste fumisterie. Jamais son efficacité n'a été démontrée pour accroître la masse musculaire, mais ça fait plaisir à croire.
Et comme ça, on peut acheter des gros pots de créatine.
Voilà, ça fait bien. Mais le placebo a sa fonction. Se faire acheter un produit, je pense par exemple à l'homéopathie. On est tous d'accord pour dire que l'homéopathie est probablement un placebo. Mais à partir du moment où il fait du bien aux gens, je vois pas pourquoi je m'en exonérerais. Par contre, je préférerais que la Sécurité sociale arrête de le rembourser.
Ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais c'est sûr. Vous avez parlé un petit peu rapidement tout à l'heure du végétarisme. Donc, j'ai compris que vous trouviez que c'était un effet de mode. Mais est-ce que vous pourriez me dire comment faire quand on est végétarien, voire même vegan, c'est-à-dire ne manger strictement aucun produit animaux, pour réussir à rester en bonne santé, parce que c'est un vrai enjeu.
Alors,
quand même.
Un végétarien n'a absolument aucun problème, il n'a absolument aucune carence. Il a la dose de protéines
via
suffisante. Il a les légumineuses. Tout au plus, il peut manquer de temps en temps d'un peu de fer, et notamment pour les femmes en période d'activité génitale. Mais un végétarien n'a aucun problème.
D'accord.
On peut parfaitement être végétarien. C'est pas quelque chose de neuf. Mm-hmm. Au début du XXe siècle, dans les années 1900, le végétarisme était très, très, très à la mode.
C'est vrai.
Et donc, c'est un circuit qui revient. Là, il a reprogressé de nouveau grâce à L214 qui a souligné un phénomène que je trouve important, c'est-à-dire qui a souligné la notion de souffrance animale, qui est un terme d'humanisme. C'est pas, il faut pas le voir simplement comme l'animal, c'est faut le voir comme une évolution de la société. Donc le végétarisme progresse en ce moment.
Bien sûr.
Le véganisme reste quand même assez à la marge. Mmh. Parce que d'abord, il impose des règles beaucoup plus strictes, parce qu'il y a dans le véganisme, il y a du végétalisme pur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre alimentation que les végétaux. Mmh. Et là, il y a des vraies carences en vitamine B12. Et en même temps, c'est un rythme de vie qui fait que vous allez exclure le cuir,
le cachemire,
donc,
etc.
À partir de ce moment-là, c'est autre chose. Ouais. On est rentré dans une dimension qui n'est pas que alimentaire, qui est d'ordre intellectuel ou spirituel. Là, les véganes ne sont pas au top performance, qu'on le veuille ou non. C'est un grand débat que j'ai avec eux régulièrement, beaucoup plus apaisé depuis quelques temps. Mais c'est un grand débat. Ils sont pas au taquet de l'alimentation, sauf les pros. Ça veut dire ceux qui maîtrisent ça à la perfection, il y en a.
Et donc, qui prennent des compléments, j'imagine, alimentaires.
Voilà, et qui prennent des compléments alimentaires. Et après, moi, ce que je maintiens auprès d'eux comme auprès des autres, que ce soit les pros ou les contres, c'est de dire, mais chacun a la liberté de choisir.
Sûr.
À partir du moment où il se met pas en danger, je maintiens quand même ma position. Je n'aime pas le véganisme chez les enfants. Ils essayent de me convaincre tous, mais je maintiens ma position. Tant que l'enfant est en période de croissance physique au niveau du corps et cérébral, je maintiens, même si pour certains ça se passe très bien, je maintiens que je ne prendrai pas ce risque.
Ouais, il y a des carences potentielles.
Après, oui, les véganes, je les vois, ils n'ont pas l'air complètement assommés par le véganisme.
Non.
Ils sont même assez toniques, je peux
on
dire.
On a un végane chez nous qui fait plein de sport et qui est très en forme, et c'est une raison pour laquelle je pose la question.
Donc, à l'âge adulte et à la grande adolescence, je pense que ça pose peu de problèmes quand ils maîtrisent le sujet.
Bien sûr.
Par contre, chez les enfants, vraiment, je ne veux pas prendre ce risque.
Et au niveau, justement, des compléments alimentaires, on en a parlé un petit peu. Donc, est-ce que vous auriez... Déjà, premièrement, sans, une fois de plus, être dans un régime ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y aurait, selon vous, des compléments alimentaires que tout un chacun en aurait besoin de prendre ou qui serait intéressant de prendre, que ça soit du calcium, j'en sais rien.
Non, quand vous avez une alimentation...
Je sais que souvent, on parle de vitamine D, ce genre de choses dont on manque un petit peu de façon générale.
Quand vous avez une alimentation variée et équilibrée, en principe, vous manquez de rien. On est dans une société d'abondance, donc on a à peu près tout. La vitamine D, aujourd'hui, elle a pris beaucoup d'importance parce qu'on s'est rendu compte des relations qu'il y avait entre la vitamine D, non pas l'ostéoporose, mais la vitamine D et le cancer du sein. Et d'accord. On a constaté qu'une grande partie de la population était carencée en vitamine D. Donc mm-hmm. si j'avais un seul complément alimentaire à prendre, mm-hmm. aujourd'hui, ça serait de la vitamine D. Pour le reste, non. Dans une alimentation variée, équilibrée, on n'a rien de plus à prendre à condition de dépasser les 1400 calories par jour. Mm-hmm. Mais rien n'empêche de temps en temps, parce que chacun de nous a des besoins particuliers, d'aller faire quelques dosages biologiques. Ça. Et s'il y a un manque, de le compenser, bien sûr. Mais l'abus de compléments alimentaires n'a pas de sens.
N'a pas de sens. Et sur la vitamine D, pour rentrer un petit peu dans le détail, vous auriez, sans forcément citer de marque, mais je sais qu'il y a des compléments, je crois qu'il faut l'associer...
Ouais, il vaut mieux prendre des produits sur prescription médicale d'accord. parce qu'ils sont mieux dosés, même s'il y en a d'autres dans les compléments alimentaires. Mais les produits, c'est UV dose ou stérogile. Voilà, c'est ces produits-là qu'on prend classiquement. Mm-hmm. Pour les produits qui sont, quand c'est des compléments alimentaires, vous avez pas la dose thérapeutique. Mm-hmm. Ça fait partie de la législation.
Mm. Et alors, moi, j'ai par exemple fait des tests récemment et je me suis rendu compte que j'avais de l'ostéopénie. Donc, j'ai probablement des os qui sont un petit peu fragiles parce que je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être génétique. Je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient, l'ostéopénie. Mais il faut que je fasse quelque chose.
Mais
je
vous l'avez vu comment en faisant une ostéodensitométrie?
Je l'ai fait en faisant un scanner. Vous savez, les scanners DEXA, parce que j'ai de l'ostéoporose dans ma famille. Et donc, je me suis posé la question. J'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai vu mon taux de masse grasse, de mon taux de masse. Alors, malheureusement, il y a de la masse grasse, hein. Il y a aussi de la masse maigre, etc. C'était assez intéressant. Et donc, je me suis un petit peu posé ces questions-là. Et j'ai vu, en fait, que j'avais cette fameuse ostéopénie. Et du coup, j'étais complètement perdue. Parce que pour moi, ostéopénie, c'était calcium. Et en fait, j'ai commencé à lire des choses dessus et je me suis rendu compte que ça n'était absolument pas lié. En fait, contre mes attentes, le calcium ne résout pas l'ostéoporose ou l'ostéopénie.
Non, maintenant, on le sait. D'abord, si ça sert à rien, le calcium sur la vitamine D. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que le meilleur traitement de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie, bon, encore qu'il faille le confirmer par une ostéodensitométrie osseuse, qui est un examen plus précis, le vrai traitement, c'est l'augmentation de l'activité physique et la consommation de beaucoup de végétaux.
D'accord. Donc des végétaux.
Quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et de fruits
pourtant,
et qui marche un maximum ou qui fait du sport, il va renforcer ses os. C'est ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est ce qui est le plus efficace.
D'accord. Donc a priori, il n'y a pas de complément alimentaire à prendre pour essayer de compenser.
Non.
Dommage pour moi. Très bien. On a parlé de végétarisme, on a parlé de végétalisme, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai vu un autre régime que je trouve intéressant et j'ai vu que vous aviez fait une vidéo là-dessus aussi. C'est le fasting. Et notamment ce qu'ils appellent aux États-Unis le intermediate fasting, le fait de manger donc dans un temps très très rapproché. Donc pour les personnes qui nous écoutent, je veux bien que vous nous expliquiez ce que c'est.
Alors ce qu'on appelle le fasting ou le jeûne intermittent, c'est une période d'abstinence alimentaire de 16 heures. En fait, on a comparé quatre types de jeûne, un jeûne de 8 heures, un jeûne de 16 heures, un jeûne de 20 heures, un jeûne de 24 heures et les effets sur le poids. Les quatre effets de ces jeûnes, 8 heures, 16 heures, 20 heures, 24 heures. Et en fait, on regardait les effets sur le profil métabolique des individus et les effets sur la perte ou la prise de poids. Et on s'est rendu compte que, de façon assez surprenante, celui qui était le plus efficace, c'était le jeûne de 16 heures.
D'accord.
Et pas le jeûne de 20 heures ou de 24 heures ou le jeûne de 8 heures. On a donc conclu que si on voulait être efficace dans un régime, on pouvait l'être en utilisant un jeûne intermittent. Ça veut dire une abstinence alimentaire de 16 heures, ce qui n'est pas très dur à faire, hein, en fait.
Parce que 16 heures, ça veut dire qu'il faut...
Je petit déjeune, je déjeune vers 14h ou 15h, et puis j'attends 16h avant de prendre le petit déjeuner. Ou à l'inverse, je déjeune, je dîne, et je ne redéjeunerai qu'après une période de 16h. Et ça marche, et ça fonctionne. Et c'est très intéressant, notamment en cas de phase de palier dans les régimes. On utilise beaucoup ça sur des séquences de 24-48 heures. Effectivement, j'avais remarqué ça il y a quelques années. Et donc, je l'avais lancé dans un livre qui s'appelait « J'ai décidé de maigrir » et qui était paru il y a 3 ans, je crois. Mm-hmm. Et du coup, ça, en fait, je suis
ça
un lanceur de
un
tendance.
Le...
Et, donc, et donc, tout le monde a repris ce truc-là, mais ça marche, c'est assez efficace.
Et là-dessus, en fait, pour que je comprenne bien, vous recommandez 16 heures a priori d'attente, ça j'ai bien compris. Qu'est-ce qui fait que ça marche d'une certaine manière? C'est quoi? Ça augmente le métabolisme?
Les circuits métaboliques qui sont différents. Ça veut dire que à partir de quand il y a un jeûne de 16 heures, la mobilisation des triglycérides est plus importante. Donc en fait, on utilise le capital graisseux. Tout ça ne fonctionne qu'à niveau calorique égal avec une réduction calorique.
Hein. D'accord.
C'est-à-dire s'il n'y a pas de réduction calorique, vous pouvez toujours faire des jeûnes intermittents, ça ne marchera pas.
D'accord.
Mais quand vous donnez une prescription calorique avec une réduction du niveau de calories et donc un régime, entre guillemets, eh bien, si vous faites faire des séquences de jeûnes intermittents, vous êtes plus pertinent que si vous ne le faites pas faire.
D'accord, très bien. Écoutez Jean-Michel, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, qui est une question que j'aime bien poser, qui est est-ce que vous avez encore quelque chose d'autre à ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé comme sujet? peut-être me parler de votre prochain livre, je sais pas, ou
Non, en ce moment, je suis passionné par les nouvelles technologies, que ça soit le site internet Savoir Maigrir, que ça soit la chaîne YouTube, que ça soit les stories
Vous êtes aussi sur Instagram ? Où est-ce qu'on peut vous trouver si jamais
Instagram,
les auditeurs
Facebook,
ont envie de vous contacter ou juste de vous suivre ? Il faut s'abonner à votre chaîne YouTube.
Facebook, chaîne YouTube, vous pouvez me trouver à
peu près partout. C'est Jean-Michel Cohen, on vous trouve
toujours
tout simplement.
Jean-Michel Cohen ou Docteur Jean-Michel
Cohen.
Très bien,
bah, je mettrai ça dans les notes en tout cas de l'épisode
sur
le blog.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Jean-Michel.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Avant de vous quitter, j'ai quelques points en plus. Alors déjà, si vous souhaitez contacter Jean-Michel, vous allez voir, il y a pas mal de supports pour le faire. Déjà, il a un site internet qui est le site donc Savoir Maigrir. Donc c'est savoir-maigrir.aujourd'hui.com avec tout plein d'explications. C'est un site commercial où vous pourrez commencer en fait votre analyse minceur gratuite, etc. Et donc avec un vrai programme que Jean-Michel cautionne. Vous avez sinon en fait ses réseaux plus personnels. Donc sur Facebook, il va être à @régime_cohen. Là aussi, c'est quand même, on va dire, une page qui est quand même plus commerciale. Donc c'est toujours intéressant à voir, mais c'est vrai que c'est pas peut-être pour lui parler en direct. Vous avez Twitter qui est peut-être un petit peu plus proche de lui avec @JeanMichelCohen tout attaché tout simplement. Et enfin, Jean-Michel m'a confié qu'il aimait beaucoup Instagram. Et là, Instagram, c'est dr.jeanmichelcohen. Et là, je pense qu'il est un petit peu plus lui-même en train de gérer le compte. Donc n'hésitez pas à plus le solliciter sur ce support-là si vous voulez lui parler en direct. Le deuxième point, c'est que si vous souhaitez avoir évidemment les notes de cet épisode, c'est très simple. Vous pouvez aller directement sur la page du blog Crème de la Crème. Donc c'est www.podcast-6-crème-de-la-crème, rubrique podcast. Et vous verrez, je vous ai fait comme d'habitude un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir, le contact donc de Jean-Michel sur tous ses supports et les notes de l'épisode avec notamment en fait les quelques références auxquelles il fait allusion, notamment de compléments alimentaires. Aussi, si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, me dire si ce format vous a plu, franchement, ça m'intéresse énormément. N'hésitez vraiment pas à le faire directement sur Twitter, sur Insta ou sur LinkedIn. Mon pseudo, c'est @pelaignau, P-L-A-I-G-N-E-A-U. Et vraiment, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à vous abonner si ça vous a plu. Comme ça, vous ne raterez pas les nouveaux épisodes qui arriveront dans les prochaines semaines. J'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, c'était le cas en tout cas, et je vous remercie mille fois de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Crème de la Crème.